VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 3 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Fin hier à Nouakchott en Mauritanie du sommet de l'Union africaine, nous aurons un bilan.
En marge du sommet, rencontre entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel.
Au Cameroun, report des législatives et prorogation d'un an du mandat des députés.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales entachées d'irrégularités, selon un avocat de l'opposition.
Une soixantaine de disparus au large de la Libye dans un nouveau naufrage en Méditerranée.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo attendu en Corée du Nord le 5 juillet pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde.
Pour l'instant, l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Le sommet de l'Union africaine s'est terminé hier à Nouakchott en Mauritanie. Parallèlement aux questions de sécurité liées aux crises sur le continent, dont celles en République démocratique du Congo, au Sahara occidental et au Soudan du Sud, les dirigeants de l'UA ont discuté de la zone de libre-échange continentale qui pourrait représenter un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, compte rendu de Jean-Roger Bion.
De bonnes nouvelles à l'issue du sommet de Nouakchott sur le front de la zone de libre-échange continentale. 44 pays sur 55 avaient signé en mars à Kigali l'accord sur la ZLEC. 5 nouveaux pays ont signé dimanche. L'Afrique du Sud, la Sierra Leone, la Namibie, le Lesotho et le Burundi. 6 pays ont ratifié l'accord qui entrera en vigueur quand 22 l'auront fait. C'est un progrès significatif. Il faut relever des progrès notables vers l'Afrique que nous appelons de nos voeux, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, à l'issue du sommet. Les dirigeants africains veulent également mieux coordonner avec l'Europe au sujet des migrants, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, faisant allusion à la mise en place d'un observatoire sur la migration basé à Rabat, décidé par le sommet. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel en marge du sommet qui s'est achevé le même jour, assombri par des attaques djihadistes dans des pays du Sahel. Au menu de ces entretiens, la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes et appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane déployée notamment dans le nord du Mali.
Par ailleurs, les dirigeants de l'Union africaine ont décidé de soutenir la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Le point avec Raissa Girondin.
L'Union africaine a demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir la candidature du Rwanda. Un soutien collectif à la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a donc été pris à Nouakchott. Avant l'ouverture du sommet, le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, avait dit qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses homologues. Paris appuie déjà cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique. La francophonie s'est invitée à ce sommet après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Le prochain sommet de la francophonie devant désigner le futur chef de l'OIF se réunira les 11 et 12 octobre prochains en Arménie.
Au Cameroun, les députés ont adopté hier la prorogation d'un an de leur mandat demandé par le président Paul Biya. Selon lui, tenir les élections présidentielles, législatives et municipales sensiblement aux mêmes périodes rend difficile leur organisation matérielle. La présidentielle est prévue en principe en octobre, mais elle n'a pas encore été convoquée par les autorités camerounaises.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales qui ont enregistré moins d'un demi-million de nouveaux électeurs étaient entachées d'irrégularités, a dénoncé lundi à Abidjan un avocat représentant des candidats indépendants et de l'opposition. Le point avec Morgane Guériac.
Dans plusieurs villes, des personnes se sont fait inscrire sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote, a accusé Maître Claverndry. Sans préciser le nombre de cas litigieux, il ajoute qu'il faut clarifier toutes ces questions pour que des contestations ne puissent encore diviser les Ivoiriens lors des élections municipales et régionales couplées cette année et pour la présidentielle de 2020. Des candidats avaient déjà dénoncé des fraudes au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. La commission électorale indépendante a assuré enquêter sur ces allégations. L'opération de révision des listes électorales, qui s'est déroulée du 18 au 24 juin, a abouti à l'enregistrement de plus de 428 000 personnes, qui s'ajoutent à plus de 6 300 déjà sur les listes. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté avait appelé les Ivoiriens à ne pas s'inscrire, contestant la légitimité de la CEI, qu'elle juge déséquilibrée en faveur du pouvoir.
Un porte-parole de la marine libyenne a annoncé aujourd'hui que 63 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique dimanche au large de la Libye. Selon l'AFP, il citait les témoignages des rescapés. Ce nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée porte à près de 170 le nombre total des disparus depuis vendredi. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en tentant l'aventure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va effectuer du 5 au 7 juillet sa troisième visite à Pyongyang, alors que des médias américains ont rapporté ces derniers jours que la Corée du Nord renforçait ses sites nucléaires et de missiles balistiques plutôt que de les démanteler. Sa visite fait suite aux entretiens de dimanche dans la zone démilitarisée entre l'ambassadeur américain aux Philippines et les Nord-Coréens. C'était la première fois qu'ils se rencontraient apparemment depuis le sommet du 12 juin à Singapour entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Le président Trump a dit à la presse hier à la Maison-Blanche que les États-Unis n'envisagent pas d'action à ce stade contre l'Organisation mondiale du commerce, tout en avertissant qu'ils feront quelque chose s'ils ne sont pas traités correctement. Pour sa part, la porte-parole Sarah Huckabee Sanders a qualifié d'incorrectes les informations selon lesquelles les États-Unis projetaient de quitter cette organisation internationale, expliquant que le président américain a seulement des soucis concernant certains aspects de l'OMC qu'il considère comme étant injustes.
La police fédérale américaine a annoncé hier l'arrestation d'un homme proche du réseau Al-Qaïda. Il est soupçonné d'avoir planifié un attentat pour demain mercredi à l'occasion du 4 juillet, la fête nationale des États-Unis. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Le suspect, qui se fait également appeler Abdourahim Rafik, a été interpellé et écroué dimanche. De son vrai nom Demetrios Nathanael Pist, cet Américain de 48 ans a été inculpé de soutien à une organisation terroriste et encourt 20 ans de prison. Son intention était de tuer des soldats et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs, selon l'agent spécial du FBI Steve Anthony. Demetrios Pist a un casier judiciaire chargé. Il a déjà été condamné pour des vols commis avec circonstances aggravantes et des violences conjugales. Il était surveillé depuis des mois selon la police fédérale, à qui l'accuse non seulement d'avoir publié sur les réseaux sociaux des messages favorables à Al-Qaïda, mais aussi d'avoir exprimé son désir de recourir à la violence armée.
Le président élu du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a proposé lundi au président Trump de réduire les migrations et d'améliorer la sécurité et aussi des projets de développement générant des emplois au Mexique. C'est ce qu'il a dit au lendemain de son écrasante victoire qui a porté la gauche pour la première fois au pouvoir dans son pays. Monsieur Trump avait indiqué un peu plus tôt avoir eu une bonne discussion téléphonique avec monsieur López Obrador, prédisant une très bonne relation à venir. Je crois qu'il va essayer de nous aider sur la frontière, a-t-il ajouté.
En Thaïlande, les 12 enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de foot bloqués dans une grotte inondée doivent être remis en forme aujourd'hui avant une délicate évacuation en plongée. Ils ont été miraculeusement retrouvés vivants, émaciés mais sains et saufs, après avoir passé 9 jours sans vivre dans la grotte. Des médecins ont rejoint les enfants et des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur, ainsi que des vivres et des médicaments.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure de passer au sport maintenant.
Et c'est le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Et oui, scénario incroyable hier à Rostov pour les Diables Rouges. Mené 2-0 par le Japon à la surprise générale, la Belgique a effectué un superbe retour pour arracher son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Une victoire 3-2 dans un match fou. La Belgique a d'abord fortement dominé la première période, mais sans concrétiser, 0-0 à la mi-temps. Après la pause, basculement sur un contre d'Araguchi qui marque à la surprise générale pour le Japon. 1-0 et les Nippons qui ne s'arrêtent pas là puisque quelques minutes plus tard c'est Inoui qui double la mise à 2-0. On se dit alors que la Belgique est au bord du précipice. Oui mais voilà, Vertonghen réduit le score pour la Belgique puis Fellaini égalise de la tête sur un centre d'Eden Hazard à la 74e minute. Le dernier quart d'heure est complètement fou mais c'est Nasser Chadli qui finalement permet à la Belgique de se qualifier en marquant un but dans les arrêts de jeu. Et qui évite aussi la prolongation pour les Diables Rouges, qui, je vous le disais, affronteront lors du quart de finale le Brésil. La Seleção a connu un match plus calme, mais tout aussi redoutable. Mais les coéquipiers de Neymar, buteur, se sont imposés 2-0 face au Mexique. Le compte-rendu de ce huitième de finale avec l'envoyé spécial de VOA Afrique en Russie, Amdinsi.
Après une entame de rencontres difficiles, surtout durant les 20 premières minutes où ils ont été malmenés par les Mexicains, la formation brésilienne a sorti la tête de l'eau en prenant le jeu à son compte, sans pourtant réussir à marquer durant la première période face à une très bonne équipe mexicaine qui a fait mieux que se défendre. À la reprise, la bataille du milieu de terrain s'est intensifiée, mais cela n'a pas empêché aux Brésiliens d'ouvrir le score à la 51e minute par l'intermédiaire de Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain a effectué une talonnade pour son partenaire William. Ce dernier a percuté sur le côté gauche avant d'adresser un centre fort à ras de terre. La star brésilienne, en vrai renard des surfaces, s'est jetée pour tacler le ballon au fond des filets. Menés au score, les partenaires de Chicharito tenteront de revenir au score sans succès. C'est le Brésil qui va inscrire le but du chaos à la 88e minute grâce à Firmino. Rien ne pouvait plus arrêter les Brésiliens qui vont disputer les quarts de finale pour la 17e fois de l'histoire. Ahmed Nsi, Samara, VOA Afrique.
À suivre ce mardi, la Suède contre la Suisse et la Colombie face à l'Angleterre. Vendredi, France-Argentine en quart de finale et Belgique-Brésil. Samedi, ce sera la Russie face à la Croatie. Le pays organisateur, tout heureux de se retrouver à pareil niveau de la compétition. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. À mi-parcours d'une compétition tant espérée, où le doute n'était pas permis, aussi bien au niveau de l'organisation que de la participation populaire, l'équipe de Russie, à la surprise générale, est en train d'offrir à la FIFA l'ingrédient sportif indispensable à la réussite de ce grand rendez-vous mondial. Un parcours honorable du pays organisateur. C'est un exploit si l'on tient compte de la qualité trop moyenne d'une sélection dont les performances se conjugue plus au passé, à une période où le pays s'appelait URSS. C'est le premier champion d'Europe en 1960, plusieurs fois finaliste, demi-finaliste ou quart de finaliste de l'épreuve, ainsi que de la Coupe du Monde, plusieurs fois champion néo-olympique, avec en prime, sur le plan individuel, 3 ballons d'or à l'appui. Mais si les joueurs russes ont envie de se mettre au niveau de l'événement, c'est surtout pour une raison symbolique, honorer la mémoire d'un des joueurs qui ont le plus œuvré à l'évolution tactique de ce jeu, pourtant à partir d'un poste jusque-là ingrat. Il s'agit du légendaire portier du Dynamo Moscou, Lev Yashin, le seul gardien de but ballon d'or de l'histoire en 1963. En effet, Yashin a sorti le dernier rempart de sa ligne, se transformant en relanceur décisif, organisateur du jeu défensif, aboyeur utile et maître de sa surface, tout en restant l'essentiel, c'est-à-dire une muraille infranchissable, ce qui lui a valu le surnom mérité d'araignée noire de Moscou. Le fait que le gardien russe Akin Fayev ait été décisif dans les tirs au but victorieux contre l'Espagne est un signe supplémentaire que l'ombre de l'immense Yashin plane bien sur le tournoi. À la sélection, en profiter au maximum et de poursuivre son ascension. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Merci de nous avoir suivis. Le prochain point sur la compétition, ce sera ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Ne manquez pas les dernières informations sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook. À ce soir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
dans un nouveau programme interactif à votre avis du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Rencontré hier à Nouakchott en marge du sommet de l'Union africaine entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. Tous les fonds requis et promis n'ont pas encore été réunis concernant cette force et vendredi dernier, le quartier général de la force du G5 Sahel à Sévaré au Mali a subi une attaque terroriste qui a fait 3 morts. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Niamey l'éditorialiste et directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement, Moussa Aksar.
Le problème il est réel vu ce qui se passe sur le terrain quand on regarde les différentes attaques qu'il y a eu au QG même du G5 Sahel et avec d'autres attaques le long des frontières des pays concernés, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État ont mis, il faut le dire, la charrue avant le bœuf. Ils n'ont pas su, dès au départ, mobiliser les ressources nécessaires, les hommes nécessaires à cette mission, avant de vendre ces téléphones blancs-là aux populations qui sont meurtries par les attaques des djihadistes.
Il y a cette question de l'argent.
Ça fait un bout de temps que les chefs d'État de la région, notamment le président Issoufou, disaient que très bientôt, la force du G5 Sahel va monter en puissance. Et après, nous n'avons rien constaté parce que et il se trouvait qu'il n'y avait pas des ressources nécessaires avec les promesses de certains pays occidentaux et des pays du Golfe. Donc l'argent n'a pas atterri dans les caisses. On a un espoir aux populations qui subissent encore les affres de cette insécurité le long de frontières et même dans les grandes villes. Nous pensons que ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt une question de volonté. Donc on n'a pas besoin de faire tout cet entamage au moment où les djihadistes se renforcent davantage.
Que faut-il faire pour rendre opérationnelle cette force du G5 Sahel?
Bon, écoutez, tout d'abord, il faudrait mettre en application les droits de poursuite, échanger davantage les renseignements entre les pays qui sont concernés. Ensuite, avoir des ressources pour les ressources vont venir après la mise en place des hommes sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il faut mettre les hommes d'abord, avoir les ressources avant d'engager. Les États-là sont indépendants, ils peuvent avoir des unités qui peuvent se déplacer le long des frontières. Ces États-là sont souverains et ils sont vraiment à même de lutter contre ces djihadistes-là. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, qui ne représentent même pas le 1/10 de toutes ces forces-là réunies. Il suffisait vraiment de mettre en application les droits de poursuite et aussi mettre à contribution les partenaires qui sont là. Et les populations s'interrogent même pourquoi ces partenaires occidentaux sont là et qu'il n'y ait plus d'attaques au moment où ils sont présents. Et continuer vraiment à traquer les djihadistes par les armées régulières dans un pays ou dans un autre.
C'était l'éditorialiste de L'Événement, Moussa Aksar, joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, pour rester dans la capitale mauritanienne, la lutte contre la corruption était au cœur des discussions pour trouver une solution commune pour lutter contre ce fléau qui fait perdre à l'Afrique, selon l'ONU, 25% de ses richesses naturelles. Irénée Herman Ungbo a joint à Dakar Jacques Abibsi, président de Aide Transparence, une ONG spécialisée dans la gouvernance et la lutte contre la corruption.
C'est une question qui revient, qui est récurrente depuis plusieurs décennies, mais il faut bien reconnaître malheureusement que les chefs d'État n'ont fait que des efforts non seulement très longs, mais en fait des efforts qui n'ont souvent rien donné. Avec quelques exceptions, comme celle du Rwanda par exemple, ou celle du Botswana. Est-ce que cette fois-ci, les choses se feront différemment, au-delà des vœux pieux et puis des déclarations de bonnes intentions? Je ne le crois sincèrement pas.
Mais vous venez de citer quelques exemples, notamment celui du Rwanda, oui. Et il se fait que c'est le président rwandais aujourd'hui qui assure la présidence de l'organisation. Êtes-vous optimiste quant aux résultats qui pourraient être obtenus à l'issue de ces assises?
Le président du Rwanda est un homme de vie. Mais tel n'est peut-être pas le cas pour tous les pays. Ils n'ont pas la même histoire non plus, il faut se rappeler cela. Je crois que le dénominateur commun de la plupart des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud, c'est que la question du parti-État n'a pas encore été réglée. En ce sens que l'État continue d'être une situation de rente à travers laquelle les apparatchiks des partis au pouvoir ne se gênent pas pour puiser dans les caisses de l'État, et donc ce qui leur assure l'impunité, le plus souvent la plus totale.
Vous semblez assez pessimiste quant à l'aboutissement de résultats concrets pour ce qui concerne la lutte contre la corruption sur le continent.
Écoutez, malgré toute la confiance que je puisse avoir en les capacités du président du Rwanda, en règle générale, on peut observer qu'on ne peut pas développer un pays qui puisse devenir un îlot de bonne gouvernance, un îlot de démocratie à l'intérieur d'un océan de prévarication, d'un océan de mal-gouvernance. C'est impossible.
Jacques Abipsi, président de Aid Transparence, une ONG spécialisée dans la gouvernance et la lutte contre la corruption.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République centrafricaine, polémique autour de l'initiative de l'Union africaine pour la paix, plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques sont hostiles à ce projet, prévoyant un dialogue entre le pouvoir en place et les groupes armés. Sur place à Bangui, le correspondant de VOA Afrique, Freeman Sipila.
Pour une sortie de crise en Centrafrique, l'Union africaine a mis en place un panel de facilitateurs pour échanger avec les groupes armés et le pouvoir. Selon la feuille de route, un dialogue devrait être organisé uniquement entre les deux parties. Les organisations qui se sont montrées les plus hostiles à cette initiative, ce sont celles de défense des droits de l'homme. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons réagi négativement à cette initiative. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une démarche que vous avez engagée, la meilleure façon c'est de se ressaisir, de s'arrêter et de demander l'avis du peuple. Or, malheureusement, nous avons constaté que concernant ce dialogue, vous faites aujourd'hui un sondage en République centrafricaine, vous allez voir que le peuple, toute entité confondue, ne veut pas de ce dialogue. Il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a des membres du Parlement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue.
Parmi les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue, Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
De prime abord, ce n'est pas une solution, à condition qu'on centrafricanise suffisamment la démarche. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, si cette conférence-là ne s'adapte pas à ce que nous souhaitons, nous allons prendre les dispositions citoyennes pour que cette conférence ne se tienne jamais.
Dans le milieu politique, l'opposition démocratique donne un autre son de cloche. Les trois principaux partis qui sont l'URCA de Anissé Georges Dologuélé, le RPR de Alexandre Ferdinand Guindé et le parti de l'avocat Crépin Bolingouba sont favorables à cette initiative. Leur seule condition, l'intégration l'intégration de toutes les forces vives de la nation dans les débats. Alexandre Ferdinand Guindé.
Première des choses, nous soutenons la feuille de route de l'Union africaine. Mais nous disons que ce dialogue-là doit être inclusif. L'expérience a toujours prouvé que les dialogues avec un format gouvernement et groupes armés ont toujours donné des résultats négatifs.
En Centrafrique, de nombreuses personnes dénoncent un nouveau partage de gâteaux avec les bourreaux du peuple. Pour le pouvoir, il n'en est pas le cas. Évariste Ndamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement.
Il est hors de question que des questions, par exemple, d'impunité, de partage de pouvoir soient évoquées. Donc c'est pour dire que les objectifs visés par ce dialogue, c'est arriver à un accord qui puisse permettre la mise en œuvre effective des recommandations issues du forum de Bangui, mais dans le strict respect de la constitution de notre pays.
Jusqu'aujourd'hui, aucune date n'est encore officiellement fixée pour la tenue de ce dialogue, dit-on à l'étranger. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le Gabon a décidé de mettre en place une politique de réduction drastique des dépenses publiques qui passe entre autres par une baisse de 40% du nombre de fonctionnaires de la présidence de la République. Pour une réaction, Raissa Girondin a joint Raymond Ndong Sima, ancien premier ministre gabonais.
C'est un bon signe déjà de prendre le courage d'aller déjà dans le sens d'une réduction à cet endroit-là. Je pense que c'est un signal qu'il ne faut pas minorer. Il faut considérer que c'est déjà un premier pas, pas suffisant, mais ce n'est que la contrepartie, parce que pour enlever autant de monde, il faut déjà qu'on ait eu des recrutements excessifs dans cette partie de l'administration et de la gestion du pays. Donc effectivement, 40% c'est énorme, mais je me demande si ce chiffre-là est suffisant au regard des déséquilibres que nous cherchons à corriger.
Revenons sur cette réduction d'effectifs. C'est vrai que le président gabonais a tout de même conservé ses hommes clés, comme par exemple son directeur de cabinet. Il y a le secrétariat aussi général de la présidence qui est le même. Celui qui est son représentant personnel à Kondessi est aussi là. De même pour les renseignements de la présidence. Sur quels critères en fait s'est basé ces limogeages?
Moi j'ai dirigé des entreprises. Et en principe, lorsqu'on réduit les effectifs dans une entreprise, on passe sur le critère de performance au poste de travail. Et la question est-ce que les gens qui ont été limogés sont des gens qui sont moins performants que ceux qui sont restés, ou bien c'est le critère d'allégeance politique? Quel est le critère qui a été utilisé? Ça, la présidence ne l'a pas annoncé.
Il y a certains syndicats qui estiment ne pas avoir à subir ces mesures d'austérité qui sont exigées par le Fonds monétaire international. D'autres saluent cette décision d'Ali Bongo. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai dit clairement à plusieurs reprises que la situation de la fonction publique était insoutenable. Par conséquent, tout le monde doit aller dans le sens d'un effort. Effort de réduction du nombre de personnes, effort de réduction des niveaux de rémunération qui sont baissés. Il y a des voies qui peuvent être utilisées. Par exemple, je milite pour que l'on baisse l'âge de la retraite. Étant donné l'espérance de vie que l'on a au Gabon, il me paraît raisonnable de ramener l'âge de la retraite pour faire partie mécaniquement un plus grand nombre de personnes. Alors, je ne crois pas qu'on fasse des efforts pour faire plaisir au Fonds monétaire. Le Fonds monétaire n'est que celui qui désigne le déséquilibre et qui vous montre qu'il y a un déséquilibre. Mais si on ne prend pas conscience de ce déséquilibre, et il nous rattrape, car ils ne peuvent malheureusement pas se soustraire à l'effort collectif qu'il y a à faire. Maintenant, je pense que c'est leur rôle de dire qu'il faut que les critères objectifs soient mis en place pour veiller à ce que la répartition de l'effort qu'il y a à faire soit équitable.
C'était l'ancien premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Earl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.